Les robots ne crient jamais. Une nouvelle de fiction de Francis Misio, parue dans le magazine PopLab de décembre 2012. Lu et mis en onde par Bernard Fosquet. Quatrième et dernier chapitre.
La presse et les blogs se déchaînèrent deux jours plus tard, tricotant sur tous les registres. Paranoïa, jubilation, catastrophisme millénariste, arguments politiques anti-société industrielle et post-capitalistique, et même sensationnel voyeuriste. Plus de 200 robots ou androïdes avaient été aussi, ce soir-là, dans la plupart des grandes villes de France, et c'était pas un hasard, toujours dans des quartiers aisés. Je n'avais donc pas été seul, l'opération avait été concertée, générale et volontairement traumatisante. Le message d'Udit, revendiqué et communiqué auprès du cartel Media Gaming Supratelman Nintendo, avait couru dans toutes les rédactions, sur tous les écrans et sur toutes les lèvres. Même les nations peu robotisées s'en émurent. Un trauma absolu. On projetait des images d'androïdes neutralisés sur les écrans géants des rues, entre deux publicités, et les passants tétanisés en frémissaient. Des milliers de vieux se mirent à flipper pour leurs joujoux domestiques. On assista quelques secondes même à une dégringolade spectaculaire des valeurs boursières de l'industrie du house roboting avant qu'elle ne reparte, il est vrai, de plus belle à la hausse. Ce fut une traînée de poudre sur la planète, déclenchant quantité de contre-feu liberticide. Pour ou contre l'action ludite, on se déchirait. Si d'aventure quelqu'un y trouvait toutefois matière à réfléchir, il était aussitôt soupçonné d'en être. La bêtise ne fut pas absente des débats. Il y eut même un éditorialiste britannique pour râler contre ces actions ludites françaises, que la presse appelait déjà néo-canu, au seul prétexte que le ludisme était une invention de son pays. Toute cette cacophonie m'aurait transporté de joie, de révolte aboutie, s'il n'y avait pas eu un bug de time me concernant. Des 5 morts humaines comptabilisées ce soir-là, des types qui avaient voulu défendre leurs biens, imaginais-je, on en relevait un par arrêt cardiaque dans le 8e arrondissement de Paris. Les images sensationnelles et voyeuristes de son cadavre presque étalé entre les divines jambes de sa fameuse Paul Apprentice furent même brandies lors des manifestations appelant à des sanctions. Le ludite avait remplacé dans l'inconscient collectif l'image de l'anarchiste poseur de bombes. Parfait bouc émissaire. Bégaiement de l'histoire. Il y eut des flics, des chiens, des robopoles plein les rues. Le climat social devint plus délétère qu'auparavant. Les contrôles furent renforcés dans le moindre quartier. Pour ma part, je filais doux comme un employé modèle, ayant trouvé quelques explications fumeuses pour mes minces griffures au visage. Qui se serait douté que l'obscur trieur de draps était un terroriste? Je craignais toutefois qu'il ne m'identifie. Un cheveu, une goutte de sueur ou de sang tombé près de Paul Apprentice allait me trahir certainement tôt ou tard. Chaque soir, après le travail, je rentrais pétri d'angoisse, m'attendant autant à être arrêté que reconvoqué par l'organisation. Pourtant, 3 mois passèrent ainsi. Des types furent arrêtés, certains balancèrent, des groupes tombèrent, moi pas. On parla d'une insurrection à venir, mais les observateurs et commentateurs étaient tous bien en deçà, pour que ce que je savais de la réalité, le ludisme était en marche. Tôt ou tard, il réapparaîtrait sur notre modèle, dans une autre nation occidentale, et c'est bien ce que craignaient les gouvernements. C'était une déferlante qui s'annonçait, j'en étais convaincu, car de fait, c'est également une guerre intergénérationnelle que le problème robotique catalysait. La classe au pouvoir, celle des séniles, n'allait pas lâcher le morceau. Le gouvernement FF légiféra à tour de bras. Puis l'industrie RoboJab fit de nouvelles annonces. Les prochains modèles allaient être débridés pour pouvoir se défendre, avec une fonction de protection des maîtres toujours plus grande. Désemparé par mon innocuité, sans savoir à qui confier mes pensées, car j'évitais toute sortie en dehors de mon travail, je me rendis sur la tombe d'Ève, m'y recueillis et lui parlai. Je lui dis comme j'étais heureux de ne plus me tromper d'adversaire, d'avoir salué sa mémoire. Je lui confiai aussi que, quoi qu'il se passe, je recommencerai. Pour elle, j'avais souffert 4 ans de prison, et je m'attendais d'un instant à l'autre à y retourner. Mais que pouvait m'apporter sinon une existence sans idéal, sans quête d'absolu? La mémoire de ma sœur m'en offrait un. L'organisation ne réapparut qu'un mois encore plus tard, sous l'identité carrément de l'ALAM. Elle m'attendait, soutenant le mur face à la sortie de l'Institut Aloïs, où je travaillais toujours, ne comprenant pas comment j'avais pu passer à travers les mailles de la police. À mon apparition, elle leva discrètement une main, dessinant le Youth. Elle me suivit d'emblée, sans un mot échangé, jusqu'au Blitzkrieg, le café à thématique nazie qui se trouvait à deux pas de l'Institut. Je m'étais dit que si nous devions comploter, c'était encore, comme sur le principe de la boutique Matsumoto dans cet abominable endroit, aux antipodes de nos convictions qu'il fallait le faire. Dans un coin de cet établissement qui se réclamait White Power Lounge Lebensraum, nous nous assîmes sur des canapés ornés de têtes de mort. Elle commanda un Black Russian, je demandai un Papa Hemingway. Nous dûmes enseigner les recettes au serveur qui forcément n'en avait jamais entendu parler. Il nous avait proposé sans ciller un Endlosung cocktail de la semaine. Les spots faisaient étonnamment ressortir les yeux gris de la lame, qui captaient leur lumière tamisée par des bannières du Reich. De jeunes et de vieux consommateurs, amusés par le concept du lieu, ignorant de l'horreur de l'histoire remontant à un siècle à peine, papotaient gaiement. J'admirais la lame. Cette grande brune, mince, sinon maigre, dégageait un charme dévastateur, celui d'une énergie et d'une autorité, d'une vision qui manquait à ce monde mortifère, en train de tuer ses enfants, noyés sous la bouillie d'infos, de desservelage, de l'entertainment, du net 3D et de la frilosité valétudinaire de la vieillesse, qui manquait à mon monde. Je réalisais qu'il m'avait fallu à peine quelques secondes en entrant dans la salle de Matsumoto pour en avoir le béguin. Plus troublant, je réalisais aussi qu'elle ressemblait à ma sœur soumise au système à en crever. Je réalisais que j'étais amoureux, mais je savais aussi que j'allais en prendre plein la gueule. Tu enfreins la première loi, le sang, lâcha-t-elle abruptement et pour les premières paroles. Tu devrais être banni de l'organisation. Je touillais mon cocktail. L'agitateur était orné d'une croix gammée. Cet endroit était si hallucinant. Tu as une chance incroyable. Tu sais que c'est un des nôtres, Warman Eddell, qui t'a recueilli. Et tu sais qu'heureusement pour toi, nous avons les amis au fichier centralisé des empreintes génétiques.
C'était donc pas de la chance.
On veut pas de robots, mais on sait servir de la techno. On t'a surveillé, on l'a déclenché pour qu'il se tire de là. Tu as agi comme au siècle dernier, quand la science ne pouvait rien contre nous. Même si tu avais live-tweeté ton action sur Net 3D, ça aurait été plus discret.
J'écrasais la feuille de menthe dans mon verre. Je me répétais la recette comme un idiot. Havana Club, Marasquin, citron vert. Havana Club, Marasquin, citron vert.
En théorie, tu devrais passer devant notre tribunal.
On connaît aussi ce cocktail sous le nom de Papa Doble. J'évitais de rétorquer que le sang n'avait pas été versé, qu'il était mort de peur, etc. Nous n'avons reçu aucun entraînement. Que pour une organisation clandestine, eux aussi s'avéraient être sacrément laxistes et bricoleurs. Ou alors, tout était pensé. Avait-il besoin de simplement tester notre folie, celle d'un engagement jusqu'au boutiste? Pourquoi tout ce temps? Sans doute s'était-il donc plutôt intéressé au fait que ces 4 mois, j'avais pas craqué. Le test n'avait pas été Paul Apprentice. Le test avait été l'après Paul Apprentice. Perdu dans mes réflexions, j'évitais de la regarder. J'évitais ses yeux gris, j'évitais ses mains, l'échancrure de sa chemise. J'évitais de pleurer comme un ado motivé qui avait simplement potassé Frinette sans réfléchir plus loin. Trop de tension, trop de tension.
Un type est mort, c'est absolument contraire à nos principes. En outre, cela dessert la cause. L'ennemi n'est pas l'humain, aussi con soit-il devenu à cause du spectacle. Car l'ennemi, c'est plus le spectacle ni la marchandise, croyait l'autre. C'est désormais et de nouveau la machine, ce comble de la société industrielle. Derrière elle, derrière son existence, il y a tout le pire possible. Par exemple, il y a ça, l'industrialisation de la mort.
Sa main balaya le décor nazi de l'établissement.
des icônes, des bannières, les photographies d'athlètes de Leni Riefenstahl encadrées dans l'acier peint et en verre de gris. Les images de ce vieux film d'animation nazi, Robot Attack, fabriqué il y a 30 ans par un type tout seul. Le serveur, alerté par son geste, vient nous demander si tout allait bien. Je hochais la tête. Grognement gêné de ma part. À l'autre table, non loin de nous deux, une bande de jeunes éclata de rire. Indécence et obscénité. La lame était superbe, mais la lame serait jamais à moi.
Puisque tu t'obstines à te taire, alors continue de m'écouter.
Je me sentais comme un gosse fautif. J'avais égorgé une androïde, mais j'étais seul responsable de la mort du vieux. Et je me sentais comme un gosse. Elle siffla à la fin de son verre d'un trait, le reposa bruyamment sur la table, puis se leva. Elle sortit un billet de 100 euros et un big phone de sa poche qu'elle projeta sur la table. Debout, en contre-jour, j'entendis sa silhouette assombrie me parler.
Malgré tes invraisemblables imprudences, tu as réussi un truc difficile, figure-toi. Une housewife en nuisette. Peu de mecs y parviennent. Les mecs se font tous avoir avec les artefacts. Vous êtes tous pareils. S'ils vont pas au bout de la mission, c'est que la minette en latex a réveillé un truc pas clair en eux. J'ai la conviction que c'est pas ton cas. J'ai le sentiment que t'es différent et je veux te donner ta chance. Et celle de te faire pardonner tes erreurs qui auraient pu tous nous faire tomber. Car tu t'es bien tenu après. Tu vas lire sans tarder TikTok, un vieux roman d'un type nommé John Sladek. Tu le trouveras sur Freenet. Tu t'en souviendras ? TikTok. Tu recevras un coup de fil un jour prochain, quand le job sera fait, et seulement si tu le fais, alors on se reverra. Cette fois, tu seras longuement formé avant d'y aller. Cette fois, tu auras les moyens importants mis à ta disposition. Et alors, une fois cette affaire réglée, j'aurai d'autres choses plus personnelles à te dire.
Elle a brusquement tourné les talons en lâchant.
J'ai fini, tu peux parler maintenant.
J'ai terminé mon papa Hemingway. À l'autre table, il rigolait toujours. Des jeunes déjà vieux, sans doute. TikTok. J'ai en effet trouvé le roman sur Freenet. C'est un roman de science-fiction satirique du siècle dernier. Il raconte l'histoire d'un robot sociopathe, criminel et sans état d'âme. Le truc important à en retenir, c'est que le robot veut accéder à la Maison Blanche. C'est ok, message reçu. Et puis la lame, je veux vite te revoir. C'est juste humain.
C'était Les robots ne crient jamais. Une fiction de Francis Misio, lue et mise en onde par Bernard Postier. Vous avez pu entendre dans cet épisode et dans l'ordre quelques musiques publiées sous licence Creative Commons. Tout d'abord 13 avec No Shuffle From 2-4. Il y a eu Gundach avec Idiot in Space. Admiral Bob 77 avec We Are You. Un vieux chant allemand, Overdrew, hymne à la langue. Et le dernier titre était Nazi German Hardcore Hell March, Lyon 3. La musique du générique est toujours de Sébastien Gintis, qui se nomme Epic Violet.